Véroa Afrique, le monde aujourd'hui, à Washington.
Bienvenue dans cette édition du 22 février 2021. Nathalie Barge à la présentation, voici les titres. En République démocratique du Congo, l'ambassadeur d'Italie, son chauffeur et un garde du corps ont été tués dans une attaque contre un convoi de la MONUSCO. Au Niger, le dépouillement des suffrages du second tour de la présidentielle de dimanche se poursuit. En Algérie, des milliers de manifestants ont défilé pour le deuxième anniversaire du soulèvement populaire du Irak. Pandémie de Covid-19, les États-Unis ont passé le seuil des 500 000 morts. Après le journal, ce sera l'économie et les sports. L'ambassadeur d'Italie en République démocratique du Congo, Luca Attanasio, a été tué avec son chauffeur et un garde du corps ce lundi dans une embuscade près de Goma contre un convoi du Programme alimentaire mondial. Le gouvernement congolais accuse les FDLR d'être à l'origine de l'attaque. Le point avec Eddie Isango.
Le décès de l'ambassadeur de l'Italie, Luca Attanasio, a été confirmé par les autorités italiennes et congolaises. Selon la ministre congolaise des Affaires étrangères, Marine Tumba Nzeza, l'ambassadeur italien, âgé de 43 ans, a été tué lorsqu'un convoi du Programme alimentaire mondial est tombé dans une embuscade. Il a succombé à ses blessures par balle dans un hôpital de Goma. Son chauffeur et son garde du corps ont aussi été tués dans l'attaque. La chef de la diplomatie congolaise a dans un message sur vidéo promis que son pays fera tout pour identifier les assassins. Côté italien, le président Sergio Mattarella a qualifié le meurtre de lâche assassinat. Aucun effort ne sera épargné pour faire la lumière sur ce qui s'est passé, a aussi déclaré à la presse. De son côté, le ministre italien des Affaires étrangères, Luigi Di Maio, qui s'est trouvé à Bruxelles. De nombreux groupes armés écument l'est de la RDC, une région proche du Rwanda.
Au Niger, les premiers résultats du second tour de la présidentielle ont commencé à être diffusés par la CENI. Les électeurs devaient choisir entre Mohamed Bazoum et Mahamat Ousmane pour succéder au président sortant Mamadou Issoufou. Le scrutin a été endeuillé par la mort de 7 agents électoraux près de la frontière du Burkina Faso et d'un autre dans la région de Diffa. Le point avec notre correspondant Abdul Razak Idrissa.
À 16h temps universel sur les 266 communes que compte le pays, la Commission électorale nationale indépendante a compilé et diffusé les résultats de 86 d'entre elles, soit moins du tiers. Ces résultats donnent une légère avance pour le candidat du parti au pouvoir Mohamed Bazoum sur celui de l'opposition Mahamat Ousmane. La CENI espère finir ce travail au plus tard mercredi. La mort des 7 agents électoraux le jour du vote au passage de leur véhicule sur une mine près de la frontière du Burkina plane encore sur ces opérations de dépouillement et de diffusion des résultats. Les différentes missions d'observation électorale ont commencé à publier leurs déclarations préliminaires sur ce scrutin. Elles disent en général qu'il s'est globalement bien déroulé. Elles appellent par ailleurs les acteurs à privilégier les voies légales et pacifiques de recours en cas de contestation. Abdul Razak Idrissa, à Niamey, pour VOA Afrique.
La Cour constitutionnelle du Bénin a définitivement validé 3 candidatures pour la présidentielle et a débouté 8 opposants qui avaient déposé un recours. Le 11 avril, les 5,5 millions d'électeurs béninois auront le choix entre 3 candidatures, celle du président sortant Patrice Talon et celle de 2 opposants peu connus du grand public. Il s'agit de l'ancien ministre Alassane Soumanou du parti Force Kori pour un Bénin émergent et de Corentin Kowé, une figure dissidente parmi les opposants. Au Nigeria, 53 otages, dont 20 femmes et 9 enfants, récemment kidnappés dans le centre du pays, ont été libérés dimanche par leurs ravisseurs, tandis qu'on restait sans nouvelles des 42 personnes enlevées mercredi dans un lycée de Kagara. Aucune précision sur les conditions de libération n'a été apportée par les autorités qui ont toujours affirmé qu'elles ne paieraient pas de rançon. Ces passagers de bus avaient été enlevés près du village de Kundu, a indiqué le gouvernorat de l'État du Niger. Des milliers de manifestants ont défilé ce lundi à Alger et dans d'autres villes d'Algérie pour le deuxième anniversaire du soulèvement populaire du Irak. Le point avec Abdourahman Dia.
Il s'agit du cortège le plus imposant dans la capitale depuis la suspension des marches du Hirak mi-mars 2020 à cause de la pandémie de Covid-19, selon des journalistes sur place. Nous ne sommes pas venus pour célébrer le deuxième anniversaire du Hirak, mais réclamer votre départ, ont scandé les protestataires en référence au régime auquel ils s'opposent depuis 2 ans. Des barrages de police ont été mis en place sur plusieurs axes routiers menant à la capitale et un impressionnant dispositif policier a été déployé en centre-ville. La police a procédé à des interpellations parfois musclées. Déclenché le 22 février 2019, le Hirak, mouvement de protestation populaire inédit en Algérie, avait poussé Abdelaziz Bouteflika au pouvoir depuis 2 décennies à la démission 2 mois plus tard. Cet anniversaire survient au lendemain d'une série de décisions du président Tebboune qui s'efforce de reprendre l'initiative. M. Tebboune a procédé hier dimanche à un remaniement gouvernemental et dissout l'Assemblée nationale, ouvrant la voie à des législatives anticipées dans les 6 mois. La semaine dernière, il a décrété une grâce en faveur d'une 60aine de détenus d'opinion.
En Ouganda, l'opposant Bobi Wine a annoncé qu'il retirait le recours déposé devant la Cour suprême pour contester les résultats de l'élection présidentielle, accusant l'institution de manquer d'impartialité. Le président Yoweri Museveni a remporté le scrutin pour la 6e fois consécutive le 14 janvier avec 58% des voix face à Bobi Wine qui a obtenu 35% des suffrages. Ce dernier affirmait disposer de preuves d'irrégularité. L'émissaire de l'ONU pour la Somalie, James Swan, a appelé ce lundi à un consensus dans ce pays pour tenir des élections dès que possible et éviter une escalade après des échanges de tirs vendredi en marge d'une manifestation de l'opposition. Lors d'une visioconférence trimestrielle du Conseil de sécurité de l'ONU, il a exhorté tous les dirigeants politiques somaliens à rejeter la confrontation et éviter des tactiques risquées. En Afrique du Sud, un responsable d'un parti d'opposition rwandais a été tué par balle dimanche au Cap où il vivait en exil. Le coordinateur en Afrique du Sud du Congrès national rwandais, Seif Bamporiki, a été abattu dans le township de Nyanga. Le motif de ce meurtre n'est pas clairement établi, mais le RNC a indiqué que le mode opératoire rappelait de précédentes attaques à caractère politique visant des opposants rwandais. Les gardes-côtes tunisiens ont intercepté 157 migrants qui tentaient de rallier clandestinement l'Europe ce week-end et repêché 2 corps au large des côtes tunisiennes. Samedi, 54 personnes ont été secourues au large de la province de Madia. Tous les passagers étaient des hommes, dont 3 Syriens et des Tunisiens. Dimanche, 103 personnes en provenance du port libyen de Zouara ont été secourues. Elles étaient de nationalité syrienne, égyptienne, soudanaise, somalienne et bengalaise.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
La pandémie de Covid-19, les États-Unis ont passé le seuil des 500 000 morts au moment où le rythme des vaccinations offre une lueur d'espoir. Le point avec Yacouba Ouédraogo.
500 000, c'est près de 70 000 de plus que tous les Américains morts pendant la Seconde Guerre mondiale, a déploré le président Joe Biden, ajoutant toutefois, je cite, « Je crois que nous allons nous rapprocher de la normalité d'ici la fin de cette année. » Avec une moyenne de 1,7 million d'injections quotidiennes de doses contre le COVID-19, il s'est dit confiant dans la capacité d'atteindre 600 millions de doses disponibles d'ici fin juillet. C'est terrible, nous n'avons rien connu de tel depuis plus de 100 ans. Depuis la pandémie de 1918, a réagi l'immunologue Anthony Fauci, conseiller du président Biden. En Allemagne, écoles et garderies ont rouvert dans une grande partie du pays, malgré la crainte d'une 3e vague liée au variant britannique. Le secrétaire général de l'ONU a dénoncé un nationalisme vaccinal. À eux seuls, 10 pays se sont partagés plus de 3/4 des doses de vaccins contre le COVID-19 administrées à ce jour, a déclaré Antonio Guterres. Sanofi va produire en France le vaccin contre le COVID-19 de son concurrent américain Johnson & Johnson au second semestre, comme il s'apprête à le faire pour celui de Pfizer-BioNTech, a annoncé le groupe pharmaceutique français.
La police néerlandaise a ouvert une enquête après la chute de débris d'un avion cargo Boeing 747-400 qui ont blessé deux personnes dans le sud des Pays-Bas. Cet incident est survenu samedi, le même jour que celui arrivé au Colorado où un Boeing 777 a dû faire demi-tour après l'incendie d'un réacteur. Tous ces modèles équipés du moteur mis en cause ont été immobilisés et le Royaume-Uni a interdit son espace aérien au Boeing 777 équipé de ces moteurs. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. L'actualité économique en Afrique, on en parle dans la Minute Éco qui vous est présentée ce soir par Nani Talani.
Au Congo, les travaux de la raffinerie Atlantique Pétrochimie ont débuté à Fouta, près de Pointe-Noire, la capitale économique. D'une capacité de 2,5 millions de tonnes par an, la raffinerie devrait offrir plus de 5 000 emplois aux Congolais. Elle produira de l'essence automobile et d'aviation, du gaz de pétrole liquéfié, du gazole, des lubrifiants, du bitume, du pétrole lampant et d'autres produits. La raffinerie sera construite sur 240 hectares grâce à un financement de la Chine de 300 milliards de francs CFA. Le Togo vient de se doter de 3 nouvelles stations météorologiques marines et de courantomètres, des mesures de la vitesse d'écoulement de l'eau, grâce à un appui de 348 millions de francs CFA du PNUD. À en croire Togo First, les stations sont installées au port autonome de Lomé, à Kpémé et à Côte-de-Viacoupé. Le Togo pourrait ainsi améliorer ses services maritimes, les activités de la pêche, la résilience des populations et des écosystèmes de la zone côtière et renforcer le développement de son économie bleue. En Tunisie, le ministère du transport veut négocier l'échelonnement des dettes que la compagnie aérienne publique tunisaire a accumulées auprès de la société privée turque TAV Airport et qui s'élève à environ 121 millions d'euros.
À présent, les sports présentés par Yacouba Ouedraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir à tous. On connaît les différents groupes de la phase de poule de la Coupe de la Confédération. Le tirage au sort a eu lieu ce lundi. Le groupe A est composé d'Enimba FC du Nigeria, de l'Entente Sétif d'Algérie, des Sud-Africains d'Orlando Pirates et d'Al Ahly Benghazi de la Libye. Tenant du titre, la Renaissance Sportive de Berkane est dans la poule B, en compagnie de la JS Kabylie d'Algérie, de Coton Sport de Garoua et de Nafsa Star de la Zambie. Dans le groupe C, on retrouve le CS Sfaxien de la Tunisie, Salitas FC du Burkina Faso, Jaraf du Sénégal et le vainqueur de la rencontre Étoile du Sahel contre Young Buffaloes de l'Eswatini. Le Raja Casablanca est logé dans le groupe D avec Pyramide FC, Nkana et le vainqueur du match qui opposera Namungu FC de la Tanzanie à 1er de Agosto de l'Angola. La CAN des moins de 20 ans se poursuit en Mauritanie avec les matchs de la dernière journée de la phase de poule. Le groupe C livre ce soir s'est qualifié pour les quarts de finale. Le Ghana fait face à la Gambie et le Maroc joue la Tanzanie. Marocains et Ghanéens partagent la première place du groupe. Hier, dans le groupe B, le Burkina Faso, vainqueur 1-0 de la Namibie, a composté son billet pour les quarts, tout comme la Centrafrique victorieuse de la Tunisie 2-1. Ces deux équipes rejoignent ainsi le Cameroun et l'Ouganda qualifiés dans le groupe A. Et puis, du basketball avec l'épilogue des qualificatifs de l'Afrobasket 2021 chez les messieurs. La compétition débutera le 24 août prochain pour prendre fin le 5 septembre à Kigali au Rwanda. La RDC est comptée parmi les qualifiés de cette compétition, mais rien n'a été facile pour les Léopards lors de la dernière fenêtre à Monastir en Tunisie. De Kinshasa, Valdo Simo Yamba.
Trois victoires contre trois défaites sur l'ensemble de deux fenêtres des éliminatoires de l'Afrobasket 2021. La RDC a validé son ticket pour le rendez-vous final des Kigali, mais avec pas assez d'inquiétude, surtout lors de cette dernière fenêtre. Charlie Bouzango, sélectionneur adjoint de la RDC, en est conscient, puisque pas totalement satisfait.
Un peu déçu, mais il y a eu des très bonnes choses aussi. Tout n'a pas été OK, vu le manque de temps qu'on a eu à préparer. Avoir un collectif, deuxième match, c'était beaucoup mieux. Et si vous avez regardé aujourd'hui, il y a de quoi être satisfait.
Pour Rifin Kayembe, capitaine de la RDC, le plus important, c'est cette qualification obtenue.
L'essentiel, c'était juste qu'on gagne un seul match pour être qualifié. On n'a pas de regrets à se faire. On a eu la qualification, c'est ça qui est très important.
Deuxième de son groupe, derrière la Tunisie, la RDC a moins de soucis à se faire pour le rendez-vous final, puisque sa marche de progression a suffi. suffisamment fait ses preuves, estime Charlie Bouzango. De Kinshasa, Val de Simoyamba, VOA Afrique.
Merci beaucoup Yakuba pour cette page sportive. Écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Nathalie Barge pour vous présenter cette édition. Maintenant, les dossiers du jour. L'ambassadeur d'Italie en République démocratique du Congo, Luca Attanasio, a été tué avec son chauffeur et un garde du corps ce lundi dans une embuscade au nord de Goma. Cette zone à haut potentiel touristique abrite le parc des Virunga, où des rangers sont régulièrement victimes d'embuscades. Eric Manirakiza a joint à Kinshasa l'analyste politique Henri Désiré Nzouzi.
Le convoi du programme alimentaire mondial dans lequel se trouvait l'ambassadeur d'Italie a été pris pour cible par des assaillants. C'est tout ce que l'on sait à l'heure actuelle. Le bilan fait état, en dehors du décès de l'ambassadeur, celui de son chauffeur et de son garde du corps. Pour l'instant, nous n'avons pas plus d'éléments d'information à ce sujet, et donc il appartiendra donc à l'enquête de déterminer les circonstances exactes de ce qui s'est passé. Puisqu'on ne se rend pas dans ce type de zone sans prendre des précautions, vous savez que c'est une zone très compliquée où les embuscades sont légion. Et donc, comme je viens de vous l'expliquer, il faudra attendre les conclusions de l'enquête pour savoir exactement ce qui s'est passé.
L'ambassadeur Luca, pourquoi il s'était rendu dans cette zone ?
Alors, vous savez que c'est une zone qui, aujourd'hui, fait l'objet de l'attention de la communauté internationale, mais qui est aussi une zone prioritaire dans la stratégie de rétablissement de la paix du chef de l'État. Le président de la République en a fait une priorité. La communauté internationale vient régulièrement au chevet de la RDC, mais surtout dans la partie est de ce pays, ce qui explique d'ailleurs l'intérêt de plusieurs pays. Le programme alimentaire mondial, en tant qu'agence onusienne et d'autres organismes, ont coutume justement de se rendre sur place pour se rendre compte de la situation. Et donc, l'ambassadeur faisait partie de ces personnes qui sont allées sur place. Ça n'a rien d'exceptionnel. Simplement, aujourd'hui, c'est un jour de deuil, à la fois pour l'Italie, mais surtout pour la RDC, qui perd véritablement un ami sincère et très engagé en faveur de la paix.
Justement, vous avez eu un entretien avec lui dernièrement. Quel est le souvenir que vous gardez de l'ambassadeur Luca ?
Celui d'un homme très attaché au raffermissement des liens entre l'Italie et la RDC, mais surtout très engagé en fonction de la paix, du développement, avec une approche très humaniste et un souci permanent de promouvoir justement ce Congo et cette Afrique pleine de ressources, épanouie, mais surtout pleinement engagée dans une Afrique en général et un Congo en particulier, ancrée dans la modernité, mais surtout sur la voie du développement.
L'analyste politique Henri Désiré Nzouzi était joint à Kinshasa.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
Plusieurs pays ont organisé des événements à l'occasion de la Journée internationale de la langue maternelle dimanche, sous le thème de la promotion du multilinguisme pour l'inclusion dans l'éducation et la société. Sur cette question, voici un reportage de notre correspondante à Lomé, Kayilosson.
L'éducation fondée sur la première langue ou la langue maternelle doit commencer dans la petite enfance, recommande l'UNESCO, Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. Malheureusement, au Togo, l'éducation dès la maternelle se fait en français, et ce jusqu'au supérieur. Une stratégie qui entraîne des lacunes. Professeur Essadina Perret, enseignant-chercheur en linguistique à l'Université de Lomé.
C'est bien prouvé au niveau de la psychopédagogie que l'acquisition des éléments de linguistique de base de chaque apprenant constituent les fondamentaux qui permettent à l'enfant d'asseoir ses compétences avant de s'ouvrir à une autre valeur linguistique ou une langue étrangère. Par exemple, nous avons presque tous eu des difficultés en mathématiques. Alors, si on nous avait enseigné, par exemple, les mathématiques dans nos langues, nous n'aurions pas de problème. Un autre exemple, si on demandait à un enfant de dire un conte à un examen. Alors, si l'enfant n'a jamais entendu un conte dans sa langue, donc il ne peut pas tout dru connaître un conte en français.
En 1975, dans la réforme de l'enseignement, le Togo a élevé deux langues locales au statut de langue nationale et qui sont enseignées dans les écoles. Il s'agit de l'évé, la langue la plus véhiculaire du pays et majoritairement parlée au sud du Togo, mais aussi au Ghana et au Bénin. La seconde langue nationale est le kabyé, parlé dans une partie au nord du pays. Ainsi, l'évé et le kabyé disposent d'une académie. Ces académies ont pour, entre autres, mandat de contribuer à la codification de ces langues, mais aussi de soutenir leur enseignement à travers la production de manuels didactiques. Atine Dignassé, secrétaire général de l'Académie de langue kabyé.
Cette année 2021, il est prévu le renouvellement du syllabaire kabyé, en même temps qu'il est prévu la mise à jour des différents manuels d'enseignement et la reprise et l'agrandissement du dictionnaire kabyé français, français kabyé. L'année dernière, l'Académie a sorti des livres d'enseignement dont orthographe et grammaire kabyé et mon livret de vocabulaire kabyé.
Le multilinguisme permet à une personne d'avoir plusieurs richesses linguistiques. Mais dans certaines familles togolaises, il est interdit aux enfants de s'exprimer en langue locale. Une aberration qui retarde le développement, estime Antoine Kossi-Afeli, professeur titulaire de linguistique à la retraite.
C'est par les langues maternelles et nationales que les enfants d'un pays peuvent être d'abord scolarisés et donc participer plus activement au processus de développement. Nous avons honte de nos propres langues et cultures et nous ne pensons que à la culture de l'autre comme étant celle qui doit apporter le salut et la promotion sociale. Eh bien, tout le monde se jette là-dessus. Même ceux qui maîtrisent très mal le français parlent le français à leurs enfants à la maison, ce qui est extrêmement dommage.
Une bonne politique linguistique est non seulement salutaire sur le plan éducatif, mais contribue aussi à enraciner les valeurs et la culture des locuteurs natifs. Au Togo, sur la trentaine de langues locales qui existent dans le pays, seules deux sont véritablement équipées, ce qui ne favorise pas réellement une inclusion dans l'éducation à travers les langues maternelles. Kailosson, Lomé, VOA Afrique.
Abdourahmane Dia avec vous. Dans Washington Forum cette semaine, les Nigériens sont allés aux urnes dimanche pour se choisir un nouveau président lors du second tour de la présidentielle. Il mettait aux prises le candidat du pouvoir Mohamed Bazoum et l'opposant et ancien président Mahamane Ousmane. Le sortant Mahamadou Issoufou, qui a bouclé ses deux mandats, sera le premier président nigérien élu à transmettre pacifiquement le pouvoir dans ce pays qui a connu plusieurs coups d'État par le passé. Mais la mort de sept agents électoraux le jour du scrutin à Tillaberi et d'un autre à Diffa vient rappeler un des défis majeurs qui attendent le prochain président. Nous en discuterons avec nos invités ce jeudi à 19h temps universel sur VOA Afrique et voaafrique.com.
Les États-Unis ont passé le seuil des 500 000 morts du coronavirus. Toutefois, l'accélération de la campagne de vaccination et une baisse des taux de nouvelles infections redonnent espoir. Michel Quinn de La Voix de l'Amérique fait le point. Le récit est de Lionel Gaïma.
Environ 40% des élèves américains ont la possibilité de se rendre à l'école toute la semaine selon Bourbio, une entreprise de technologie qui comptabilise la réouverture des classes. Steve Scalise, député républicain de Louisiane.
Il y a tant de données scientifiques qui prouvent que cette situation nuit aux enfants. Des millions d'élèves américains n'ont pas accès aux salles de classe en ce moment.
À son arrivée à la Maison-Blanche, le président Joe Biden s'était fixé à la fin avril comme date butoir pour la réouverture de toutes les écoles primaires et secondaires. Il demande au Congrès 130 milliards de dollars pour améliorer et sécuriser les complexes scolaires et recruter des enseignants. Certains syndicats d'enseignants insistent pour que leurs membres soient vaccinés avant tout retour à l'école. Les centres de contrôle et de prévention des maladies ont fixé d'autres conditions pour la réouverture des classes. Jen Psaki, porte-parole de la Maison-Blanche.
Les centres de contrôle et de prévention des maladies ont fixé des conditions pour une reprise sécurisée des cours. La vaccination des enseignants en est une, mais la réduction du nombre d'élèves par classe, une meilleure séparation des enfants dans les bus scolaires, un plus grand nombre de tests et la réfection des écoles sont d'autres mesures.
Certains législateurs soutiennent que les conseils scolaires doivent rouvrir les écoles comme condition de réception des mesures de relance économique sur lesquelles le Congrès travaille en ce moment. Le député républicain Steve Scalise de la Louisiane.
Cette idée selon laquelle Washington doit à nouveau distribuer des centaines de millions de dollars aux écoles et ne même pas leur exiger de rouvrir, c'est une insulte pour ceux des enfants réclamant le retour à l'école.
Selon les centres de contrôle et de prévention des maladies, le nettoyage de la désinfection font partie des mesures pour réduire la propagation du COVID-19. Les administrateurs scolaires devront décider lesquelles de ces tâches seront exécutées par les enseignants, le personnel technique et le personnel de maintenance.
C'est la fin de cette édition. Un grand merci à toute l'équipe de production pour la technique. À la présentation, c'était Nathalie Barge. Merci d'avoir suivi Le Monde aujourd'hui. Rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. À très bientôt et bon courage.
Ici Washington, la voix de l'Amérique. Voici un éditorial reflétant le point de vue du gouvernement des États-Unis.
Les États-Unis soutiennent le peuple libanais dans ses appels continus à la responsabilité et aux réformes au Liban. Le 4 février, Lokman Slim, un courageux militant pour la liberté d'expression et la participation civique, a été retrouvé mort dans sa voiture au sud Liban. Il avait été abattu de 5 balles. Les États-Unis condamnent le meurtre brutal de Lokman Slim, éditeur et réalisateur des documentaires. M. Slim, un chiite, s'était prononcé contre les tactiques violentes du Hezbollah soutenues par l'Iran au Liban. L'ambassadeur des États-Unis au Liban, Dorothy Shea, a souligné les dangers auxquels le dauphin était confronté. Lokman Slim, en public comme en privé, a fait état de menaces contre sa vie et pourtant, il a courageusement continué de faire pression pour la justice, la responsabilité et l'état de droit au Liban. Le secrétaire d'État Anthony Blinken a qualifié le meurtre de M. Slim d'assassinat odieux, déclarant dans un communiqué « Il est lâche et inacceptable de recourir à la violence, aux menaces et à l'intimidation comme moyen de renverser l'état de droit ou de supprimer la liberté d'expression et l'activisme civique. Nous exhortons les responsables libanais, y compris le pouvoir judiciaire et les dirigeants politiques, à demander sans délai ni exception des comptes à ceux qui commettent de tels actes barbares. » Le corps de M. Lokman Slim a été découvert 6 mois, jour pour jour, après l'horrible explosion du 4 août 2020 à Beyrouth, qui a tué des centaines de personnes et blessé des milliers d'autres. L'enquête nationale sur l'explosion a repris ce mois-ci. Il est important que la justice libanaise démontre qu'elle peut agir pour garantir le respect de l'état de droit. Dans une déclaration conjointe, le secrétaire d'État Blinken et le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, ont réitéré l'appui sans équivoque de leur pays au peuple libanais, notamment à travers une aide urgente en matière de santé, d'éducation, de logement et d'autres formes d'assistance. Les deux responsables ont toutefois ajouté « La France et les États-Unis s'attendent également à des résultats rapides sur l'enquête sur les causes de l'explosion. » Le 6e mois depuis cet événement tragique souligne le besoin urgent et vital pour les parties prenantes libanaises de concrétiser enfin leur engagement à former un gouvernement crédible et efficace et ouvrir la voie à la mise en œuvre des réformes nécessaires conformément aux aspirations du peuple libanais, ont écrit le secrétaire d'État Blinken et Le Drian, son homologue français. Ces actions concrètes restent cruciales pour l'engagement de la France, des États-Unis et de leurs partenaires régionaux et internationaux à apporter un soutien structurel supplémentaire à plus long terme au Liban.
C'était un éditorial reflétant le point de vue du gouvernement.